Bonjour Aurélie Kiefer.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Réussir, c'est le thème décliné par Jean-Michel Blanquer au cours de sa conférence de rentrée. Et pour réussir sa réforme du bac, le ministre de l'Éducation se montre un peu plus conciliant qu'avant l'été. Analyse d'Hakim Kasmi dans un instant. Faut-il élargir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes? La commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur la bioéthique à l'Assemblée a débuté ses auditions. Compte rendu de Margot Delpierre. Les partis d'opposition britanniques ne veulent pas d'un Brexit dur. Ils se sont accordés sur l'urgence d'agir ensemble, mais pas sur la solution. Le président brésilien veut des excuses d'Emmanuel Macron avant d'accepter l'aide du G7 pour lutter contre les incendies en Amazonie. Incendies qui touchent aussi d'autres pays. Nous ferons un point avec Omar Waman. Nous sommes un peuple de colibris. Sous un platane bicentenaire, le ministre de l'Éducation nationale a voulu balayer l'image du mammouth pour montrer que l'école peut se réformer et même s'adapter aux bouleversements climatiques. Lors de sa conférence de rentrée ce matin, Jean-Michel Blanquer a qualifié l'écologie de sujet très important, promettant de gros efforts pour sensibiliser davantage les élèves à l'environnement. Le ministre a aussi voulu montrer que la page des conflits était tournée. Plus question de s'en prendre aux professeurs grévistes. Il veut une rentrée sereine et sous le signe de la réussite, Hakim Kasmi.
Oui, une école de la réussite, synonyme de justice sociale et territoriale, que justifie le ministre de l'Éducation par ses réformes depuis 2 ans, à commencer par le dédoublement des classes en CP et en CE1, en REP et en REP+, qui va bénéficier cette année à 300 000 élèves, avec même un objectif qui est d'atteindre les 500 000 élèves en étendant cette mesure en cours élémentaire. Autre mesure, ou plutôt promesse d'Emmanuel Macron, pas plus de 24 élèves par classe en CP et en CE1 et en maternelle d'ici la rentrée 2020. Enfin, le gouvernement s'est engagé à ne plus fermer d'école en classe rurale d'ici la fin du quinquennat.
Et la réforme du bac continue d'être mise en œuvre, Hakim, mais la méthode a changé.
Oui, au début réticent et refusant le dialogue, malgré la contestation du printemps et même des grèves de correcteurs du bac au mois de juillet, le ministre de l'Éducation se dit prêt à la discussion et même à la mise en place d'un comité de suivi de la réforme du lycée. Jean-Michel Blanquer.
Le comité de suivi, comme c'est normal d'ailleurs, permet de voir à la fois la réforme du lycée, mais aussi la réforme de la voie professionnelle. Dans les deux cas, il y a encore toute une série de sujets à ajuster, par exemple les modalités du contrôle continu, par exemple la nature de l'oral que les élèves passeront à la fin de la terminale. Et je voudrais quand même redire que c'est un changement majeur qui se passe, notamment pour les élèves de première en cette rentrée, et c'est un changement qui a permis à la fois de leur donner plus de liberté de choix, mais aussi plus de possibilités d'approfondir les matières.
Donner plus le choix aux élèves, c'est toute la philosophie de la réforme, sauf que ce n'est pas toujours le cas dans tous les établissements, dans la pratique, car ils n'ont pas tous les mêmes moyens, d'où la prudence de Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES.
On peut très bien juste avoir un comité de suivi qui va faire un bilan et qui va attendre que les 2 ans de la réforme soient appliqués en première et terminale là, jusqu'en 2021 pour ensuite expliquer que on ne peut pas bouger une réforme qui est déjà bien installée. Donc nous, ce que nous voulons, c'est très très vite que le ministre reconnaisse qu'il y a des problèmes et reconnaisse qu'il faut reprendre le dialogue pour regarder ce qui est à corriger pour une autre réforme.
Si le dialogue semble reprendre entre les syndicats et les enseignants, ces derniers attendent des actes concrets, sans quoi des mouvements de grève pourraient être lancés très prochainement.
Hakim Kasmi, c'est l'ensemble de l'exécutif qui semble vouloir adopter la méthode douce en cette rentrée. Évoquant la réforme des retraites, le président a affirmé hier soir sur France 2 qu'il préférait un accord sur la durée de cotisation avec les partenaires sociaux, alors que le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, préconise, lui, l'instauration d'un âge pivot à 64 ans. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Chef du service économie de France Culture, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a aussitôt manifesté son agacement. Il dit espérer que ce n'est pas une manœuvre pour enterrer la réforme. Mais quelle que soit la solution retenue, alors, il va bien falloir préserver l'équilibre du régime.
Oui, car l'objectif du gouvernement, c'est de démarrer cette réforme en 2025 avec un régime des retraites sans aucun déficit. Pendant la campagne présidentielle, quand le chef de l'État annonce la fusion des 42 systèmes existants, les prévisions sont bonnes. Pas de problème à l'horizon. Mais depuis, les projections ont été revues et corrigées. Et dans le dernier rapport, le Conseil d'orientation des retraites table sur un solde négatif de 10 milliards d'euros en 2022, avec un retour à l'équilibre prévu au mieux en 2040. 42. Alors l'âge de départ pivot avec un système de bonus-malus, c'était le moyen préconisé par Jean-Paul Delevoye pour revenir dans les clous, mais Emmanuel Macron a donc marqué sa préférence hier pour l'allongement de la durée de cotisation. Et ce levier, il a déjà été utilisé par le passé pour faire des économies. La réforme Fillon, puis la réforme Touraine, 43 annuités de cotisation en 2035 contre 41 et demi aujourd'hui. Le gouvernement reprendra sûrement cette référence avec un calendrier accéléré. L'avantage de cette solution, c'est de ne plus afficher d'âge de départ. Ceux qui ont commencé à travailler tard partiront plus tard. Ceux qui ont commencé tôt, plus tôt. Reste à faire de la pédagogie auprès des Français. Ça tombe bien. Le gouvernement a prévu de longs mois de discussion. Une concertation citoyenne est organisée, notamment avant de présenter son projet de loi.
Et donc, les consultations d'Edouard Philippe sur les retraites débutent le 5 septembre. Le Premier ministre qui veut montrer que la promesse d'un acte 2 du quinquennat plus délibératif est tenue. Il a reçu ce matin les représentants du pacte du pouvoir de vivre. 19 organisations qui demandent une inflexion écologique et sociale à l'initiative de Nicolas Hulot et de Laurent Berger, patron de la CFDT. Des syndicats ONG qui veulent maintenant juger sur pièce, Yannick Falt.
Les organisations reçues saluent à l'unisson un changement de méthode pour cet acte 2 du quinquennat. Porte ouverte, concertation, considération. De bon augure après la crise des gilets jaunes pour Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
C'est ce qu'on a dit au gouvernement en disant vous ne pourrez pas changer tout d'en haut. Il faut que vous travaillez avec nous, il faut que vous travaillez avec la société civile, il faut que vous travaillez avec les citoyens. La crise démocratique est trop forte. Et bien cette porte, elle a été ouverte. Mais il va falloir des actes forts, des preuves d'amour pour que les choses changent durement et rapidement dans notre société. Il y a urgence.
Et les preuves d'amour, c'est du concret pour les organisations reçues qui demandent 8 mesures d'urgence, notamment interdire la location des logements très mal isolés, les fameuses passoires énergétiques, ou évaluer l'impact de toute nouvelle loi sur les 10% les plus pauvres, mais aussi des mesures dans le cadre du prochain budget, le projet de loi de finances 2020. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
Nous avons porté, dans le cadre de ce PLF 2020, des ambitions sociales, avec notamment la revalorisation des minima sociaux, des ambitions écologiques, notamment on a reposé la question de la fiscalité carbone qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Et donc on attendra des actes.
Des actes après beaucoup de paroles, notamment en matière d'écologie, thème d'ailleurs du premier déplacement de rentrée d'Edouard Philippe, jeudi à Roubaix.
Les auditions sur le projet de loi de bioéthique ont commencé ce matin à l'Assemblée. La commission s'attarde en particulier sur la PMA, la procréation médicalement assistée. Elle pourrait bientôt être ouverte à toutes les femmes, mais avant cela, les députés entendront les avis de tous bords, ceux des pros, des anti, des représentants du culte et des scientifiques. Le gouvernement tente de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'en 2012 avec le mariage pour tous, en invitant au dialogue toutes les parties. Les associations de défense des droits LGBT ont été les premières reçues, Margot Delpierre.
Les discussions ont démarré dans le calme ce matin, mais non sans émotion, comme l'a reconnu Dominique Boren, coprésident de l'association des parents gays et lesbiens.
À titre préliminaire, je voudrais partager mon émotion d'être présent aujourd'hui avec vous, parce que cette loi, on l'attend depuis très longtemps.
Également présente, l'avocate Aude Denarnaud de Parents sans droit. Elle a rappelé aux députés l'ampleur de la tâche qui les attend.
Aujourd'hui, nous avons un droit français qui est inégalitaire pour les parents homosexuels. Inégalitaire parce que pour créer ce lien de filiation, il faut impérativement que le couple soit marié et qu'on passe par l'adoption. Vous devez vous en emparer, vous devez trouver des solutions pour ces situations qui existent et qui représentent des centaines et des centaines d'enfants français.
Si les militants souhaitent l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, ils ne la veulent pas sous n'importe quelles conditions. Certaines modalités comme la DAV, la déclaration anticipée de volonté devant notaire, divisent. Elle est demandée au couple de femmes avant la conception de l'enfant pour que les deux deviennent parents au même moment et au même titre, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Rebecca Nielbienne de l'association Maya.
Dans l'État, le projet actuel introduit une double discrimination. Donc une discrimination envers les mères lesbiennes, puisque ce seront les seuls parents parmi tous ceux qui recourent au don à qui une DAV sera demandée. Et ensuite, envers les enfants des parents hétérosexuels dont le droit d'accès aux origines ne sera pas assuré, mais sera soumis à l'arbitraire des parents. On estime qu'en 2019, cela ne devrait plus être possible.
Place maintenant à ceux qui s'opposent à l'élargissement de la PMA. L'audition de Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, est particulièrement attendue.
Les auditions doivent durer 2 semaines à l'Assemblée. Déception pour le maire de Langouette, petite commune d'Ille-et-Vilaine. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'arrêté anti-pesticides qu'avait pris Daniel Cueff le 18 mai dernier. Un arrêté interdisant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à moins de 150 mètres des habitations. Le tribunal a estimé qu'une telle décision ne faisait pas partie des prérogatives du maire. Une commune ne peut pas se substituer au service de l'État, Stéphane Robert.
Non, l'autorisation de l'usage des produits phytosanitaires relève du ministère de l'Agriculture, pas du pouvoir des maires, selon le tribunal administratif de Rennes. Emmanuel Macron avait déclaré la même chose la semaine dernière, tout en expliquant qu'il comprenait aussi ce qui avait conduit le maire de Langouette, Daniel Cueff, à prendre cette décision. En revanche, lui, Daniel Cueff, déclare ne pas comprendre l'attitude ambiguë du chef de l'État et de l'exécutif.
Pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible. D'un côté, nous avons le président de la République, la ministre de l'écologie, qui disent « nous soutenons le maire de Langouette ». Nous allons prendre les mesures nécessaires pour créer des zones d'éloignement des pesticides. Et dans le même temps, ce même gouvernement saisit le tribunal administratif pour annuler un arrêté que l'on annonce par ailleurs comme un arrêté qui sera prochainement dans la loi. Donc je ne comprends pas la logique dans laquelle se trouve le gouvernement aujourd'hui.
La décision qui a été prise n'est pas une mesure d'interdiction des pesticides, mais d'éloignement au-delà des 150 mètres entourant une habitation. Daniel Cueff affirme avoir pris cet arrêté à la demande d'une partie de la population de sa commune et attend désormais du gouvernement qu'il mette en œuvre l'engagement du chef de l'État de mieux encadrer l'utilisation par les agriculteurs des produits phytosanitaires.
La suite, je crois, elle appartient au gouvernement qui a annoncé qu'il allait prendre les mesures nécessaires. Moi, ce qui compte, c'est le concret, c'est que véritablement, on arrive à se mettre d'accord sur des distances d'éloignement des pesticides. Par rapport à la vaporisation de ces produits, les gens qui habitent à côté, les enfants qui jouent dans les jardins, les gens qui se baladent, etc., on ne puisse pas respirer malgré nous ces pesticides de synthèse.
D'autres mairies, ces derniers mois, ont pris des arrêtés anti-pesticides, notamment dans le département du nord de la France, se faisant le relais de préoccupations et d'inquiétudes croissantes au sein de la population en matière de pollution et d'environnement.
Stéphane Robert, Strasbourg va accueillir la première unité au monde de production d'hydrogène à partir de biomasse. Cet hydrogène vert, issu du bois et de déchets agricoles et forestiers, permet de faire rouler des véhicules sans émettre de CO2. Des acteurs du public et du privé se sont réunis pour ce projet, l'opérateur de gaz RGDS et la société Hafner Énergie basée à Vitry-le-François. La centrale de production d'hydrogène qui doit voir le jour d'ici 2 ans fournira du carburant aux bus de Strasbourg. Reportage d'Olivier Vogel.
L'hydrogène, c'est, de l'avis de ses producteurs, le carburant d'avenir, pas trop cher à produire et non polluant, car les émissions ne sont constituées que d'eau. Philippe Hafner est le président d'Hafner Énergie, la société qui va construire la centrale strasbourgeoise de production d'hydrogène.
On prend de la biomasse, c'est la matière du vivant en fait, hein. Ça peut être de la biomasse sylvicole, donc du bois. Ça peut être de la biomasse agricole. Donc en l'occurrence, à Strasbourg, ça sera du bois. Et on va traiter thermiquement cette biomasse pour en extraire l'hydrogène. Et ensuite, on va avoir un retraitement pour purifier le taux d'hydrogène jusqu'à atteindre un taux de 99% d'hydrogène. C'est un vecteur énergétique qui vient se substituer aux énergies fossiles, notamment au diesel ou à l'essence pour les véhicules, ou qui peut se substituer au gaz naturel fossile.
Et à quoi va servir cet hydrogène strasbourgeois ? Christelle Koller, la présidente de RGDS, Réseau Gaz Naturel de Strasbourg.
Ce démonstrateur industriel aura vocation à alimenter notamment des bus de la CTS, à alimenter des flottes de véhicules comme celle de RGDS, nous avons une flotte de véhicules importante, voire même alimenter aussi certains véhicules de la ville et de l'Eurométropole. Émission zéro, ni d'oxyde d'azote, ni de particules ne sont produites par l'hydrogène, donc un carburant très très propre, produit à partir de la biomasse. Dans le cadre d'une économie circulaire, nous aurons la possibilité de produire cet hydrogène à partir de récupération, notamment de bois non utilisé ou non récupérable. Donc c'est un processus très vertueux, très local, qui répond aux besoins du territoire.
Les premiers véhicules strasbourgeois devraient ainsi pouvoir rouler à l'hydrogène dès 2021.
Olivier Vogel à Strasbourg. À Londres, les partis d'opposition se demandent toujours comment empêcher un Brexit sans accord le 31 octobre prochain. Les leaders de l'opposition se sont réunis aujourd'hui autour de Jeremy Corbyn, mais l'idée du chef travailliste de renverser le gouvernement en déposant une motion de défiance contre Boris Johnson n'a pas convaincu Antoine Gignot.
Jeremy Corbyn est arrivé à cette réunion avec une idée simple, torpiller le gouvernement le plus vite possible. Le chef de file des travaillistes a proposé aux responsables politiques de gauche d'organiser un vote de défiance au Parlement pour faire tomber Boris Johnson, le Premier ministre, et prendre sa place, mais il n'a pas vraiment réussi à convaincre. Les indépendantistes écossais, les Verts, les indépendants redoutent les conséquences d'un nouveau séisme politique. Un changement de majorité pourrait plonger le pays dans le chaos à quelques semaines du Brexit, prévu officiellement le 31 octobre, et l'image de Jeremy Corbyn à Downing Street ne les rassure pas vraiment. Pour contrer les plans du gouvernement et éviter une sortie sans accord de l'Union européenne. La gauche et les partis d'opposition vont donc devoir travailler ensemble à une solution technique. Ce sont les mots du communiqué publié ce soir. En pratique, les députés vont déposer dans les semaines qui viennent de nouveaux projets de loi au Parlement pour tenter d'éviter une sortie brutale du bloc européen. Boris Johnson, lui, continue d'expliquer que le Royaume-Uni est prêt à toute éventualité. Le Premier ministre affirme que les chefs d'État des 27 pourraient renoncer au backstop irlandais, cette solution qui doit permettre d'éviter la reconstruction d'une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande au Sud. Son principal conseiller sur le sujet, David Frost, sera à Bruxelles demain, officiellement pour relancer les négociations.
Antoine Gignoux à Londres pour France Culture. En Italie, les pourparlers ont repris entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate pour tenter de former une nouvelle coalition gouvernementale. Ce matin, le mouvement anti-système avait annulé une séance de négociation avec le centre-gauche, lui demandant de valider clairement et officiellement la reconduction du Premier ministre sortant Giuseppe Conte, un proche du mouvement 5 étoiles. Au lendemain du sommet du G7, Emmanuel Macron prône une stratégie de l'audace diplomatique, indispensable à ses yeux pour éviter l'effacement de l'Europe face à la prééminence de la Chine et des États-Unis. Et en ouverture de la 27e conférence des ambassadeurs et ambassadrices, le chef de l'État a particulièrement insisté sur un nécessaire rapprochement entre l'Union européenne et son voisin russe. Pousser la Russie loin de l'Europe serait une profonde erreur, estime Emmanuel Macron. Fâcheuse coïncidence, la Cour européenne des droits de l'homme se montre aujourd'hui particulièrement sévère envers l'État russe dans son jugement sur l'affaire Magnitsky, d'une nom d'un avocat travaillant pour un fonds d'investissement occidental et mort en détention en 2009 dans des conditions très troubles. La correspondance de Claude Bruyot à Moscou.
Sergueï Magnitsky avait été arrêté il y a 11 ans, officiellement soupçonné de complicité d'évasion dans le cadre d'une procédure pénale contre le fonds d'investissement Hermitage Capital, spécialisé alors dans les marchés russes. Avocat de formation, Magnitsky avait révélé un mécanisme frauduleux de remboursement de TVA impliquant des responsables russes de haut niveau. Incarcéré dans des conditions très difficiles au sein de la Boutyrka, une prison du centre de Moscou, Sergueï Magnitsky est mort dans des conditions troubles, officiellement d'un malaise, mais vraisemblablement privé de soins après avoir reçu des coups, comme en atteste un rapport du Conseil consultatif pour les droits de l'homme en Russie en 2011. La disparition de l'avocat d'Hermitage Capital est intervenue quelques jours seulement avant la fin de sa détention provisoire, qui aura duré près d'un an. À l'époque, les réactions internationales avaient été nombreuses et se sont fait sentir jusqu'à aujourd'hui. Les États-Unis, en 2012 par exemple, ont adopté une loi dite Magnitsky qui sanctionne les ressortissants russes coupables de violations des droits de l'homme après avoir également interdit de séjour une soixantaine de personnalités russes dont les avoirs ont été gelés. Mais les conséquences de l'affaire Magnitsky ne s'arrêtent pas là, car la Russie, de retour cet été au sein du Conseil de l'Europe, est attendue cette fois sur le terrain législatif dans la lutte contre la torture dans ces prisons, un fléau régulièrement dénoncé par les associations de défense des droits de l'homme.
Moscou et Ankara disent partager de graves inquiétudes concernant la situation d'Idleb en Syrie. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont rencontrés à Moscou pour évoquer la violence des combats dans la région. Ils disent vouloir prendre des mesures pour normaliser la situation, sans plus de précision pour l'instant. Le président brésilien se dit prêt à discuter d'une aide du G7 pour lutter contre les incendies en Amazonie, mais à une condition, qu'Emmanuel Macron retire les insultes qu'il aurait proférées contre la personne de Jair Bolsonaro. Et le chef de cabinet du président brésilien adopte le même ton « merci, mais ces moyens seront peut-être plus pertinents pour la reforestation de l'Europe ». Pendant ces échanges d'amabilité, les feux continuent de s'étendre et le Brésil est loin d'être le seul touché par des incendies. La catastrophe est en effet d'ampleur mondiale, Omar Waman.
Oui, bonsoir Aurélie. Alors que le monde entier a les yeux tournés, rivés vers l'Amazonie et les incendies qui la ravagent, la NASA, l'agence spatiale américaine, a rendu public des images prises depuis l'espace, des clichés en temps réel qui montrent l'ampleur de la tragédie. Le désastre est en fait mondial. Pas un continent, pas une région de la planète n'est épargnée par ces feux. La situation est particulièrement dramatique en Afrique, théâtre d'incendie qui représente plus de 70% de la superficie actuellement brûlée dans le monde. Des incendies qui se situent principalement dans le centre du continent africain, des feux massifs beaucoup plus concentrés qu'en Amazonie. Mais le phénomène, Aurélie, n'a rien d'inhabituel. Il n'est pas dû au réchauffement climatique ou à la sécheresse, mais à une pratique agricole, la culture sur brûlis, une technique qui consiste à brûler une terre pour défricher la végétation et du même coup fertiliser le sol grâce à la cendre ainsi créée. Mais cette pratique ne permet pas de maîtriser l'étendue des incendies qui parfois peuvent devenir totalement incontrôlables.
Omar Waman. Nuages et éclaircies demain sur l'Hexagone. Plus de soleil du Grand Est au Massif central et vers les Pyrénées. Plus de nuages porteurs d'averses sur les côtes de la Manche et sur le relief des Alpes et de la Corse. L'après-midi, des orages se développeront sur le nord, tandis que le ciel se dégagera dans le sud. Au petit matin, il fera de 15 à 23 degrés. L'après-midi, 20 à 23 en Bretagne et sur les côtes de la Manche. De 25 à 30 sur la moitié ouest, de 30 à 33 vers l'est. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.